je rappelle que Madame Robériou est une amie des amis de l'instruction de longue date. Elle a présidé ici en 1984 le colloque lecteurs et lectures au 19e siècle, oui, de la bibliothèque des amis de l'instruction du 3e arrondissement, et y a fait elle-même une savante communication sur les ouvriers des métiers d'art à l'exposition universelle de 1867, qui a été publiée dans les actes du colloque en 1985. D'autre part, à cette époque, Madame Robériou a participé à notre réflexion sur l'avenir de la bibliothèque des amis de l'instruction. Et je lui laisse la parole.
Merci. Bon, je suis absolument désolé de voir tant de gens debout, c'est déprimant. Mais là, on pourrait encore en caser quelques-uns, il y a encore de la place.
On n'a plus de chaise.
On n'a plus de chaise. Bon, alors il y a les marches de l'escalier. C'est ça.
Il y en a encore.
Bon, c'est vrai que parler de Jaurès, ça m'arrive assez souvent, parce que c'est l'objet de travaux que je fais depuis, mon Dieu, plus de 30 ans. Et de la Société d'études jaurésiennes que je préside. Et d'ailleurs, j'ai apporté quelques papiers pour que vous puissiez vous y inscrire tout à l'heure si vous le souhaitez. Toujours ma pub, moi. Dans mon sac. Bon, enfin, vous savez parler de Jaurès. En réalité, je recommence. Enfin, je ne dis jamais la même chose parce que d'abord, je m'ennuierais trop. Et puis, parce que j'essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait une relation au moins un moment ou l'autre avec le lieu où on est amené à parler. Alors, puisque je vous parle de Jaurès dans ce lieu de Paris, qui s'est fondé alors que Jaurès était encore petit enfant, puisqu'il est né en 1859, donc il était tout petit, quand est née votre société, votre musée, votre bibliothèque, et en même temps dans un lieu qui est voué à l'instruction du peuple par les bibliothèques. Alors j'aimerais partir de ce point de vue, donc un lieu qui est voué à l'instruction du peuple par les bibliothèques, pour vous présenter Jaurès. Et après, nous verrons, nous évoluerons autrement. Alors, donc, un lieu parisien qui se donne comme finalité d'aborder, de faire connaître, de faire aborder la culture à travers les bibliothèques constituées par des ouvriers ou des gens proches des ouvriers, en tout cas. Alors, d'une certaine manière, Jaurès n'a absolument rien à voir avec ce genre de choses. Mais ce qui s'appelle rien, c'est pas seulement parce qu'il est petit quand votre bibliothèque se crée. Non, d'abord, il n'est pas parisien du tout. Il est né dans le Tarn, c'est un gars de Castres, il a été député de Carmaux, il a enseigné à Albi, donc toute sa jeunesse jusqu'à ce qu'il ait 30 ans se passe entièrement dans le Tarn, et il revient à partir de 1893 lorsqu'il est élu député de Carmaux, et il ne quittera jamais, comme il disait, ses amis de Carmaux, même quand il a été battu aux élections à Carmaux en 98. On lui a offert une circonscription toute chaude, toute prête, bien quoi, à Paris, et il a dit qu'il n'en était pas question, pourtant c'était dans le 5e arrondissement, quartier de bibliothèque entre tous, et il a dit qu'il préférait rester à Carmaux. Bon, donc c'est un homme du Tarn, et quand il n'est pas dans le Tarn, il est à Toulouse, donc c'est vraiment un homme du Midi, avec, il parle la langue, il parle, oui, ce qu'on appelle le dialecte, il parle l'occitan de cette région, il commence souvent ses discours en français quand il est dans la région, mais il continue en occitan. Et il a l'accent. On ne sait pas très bien, on dit qu'il a l'accent parce qu'en réalité, on n'a pas d'enregistrement de la voix de Jaurès, ce qui est fort malheureux, parce que ça aurait été absolument magnifique. On a des enregistrements de gens de sa génération, même plus vieux que lui, comme Clémenceau par exemple. Mais on n'en a pas de Jaurès. Bon. Alors, et il n'est pas non plus né dans une famille ouvrière. Donc il n'a absolument rien à voir avec le milieu ouvrier d'ouvriers très qualifiés qui a créé, quand même, qui est à l'origine, fondation de votre bibliothèque. Non, il est né dans une famille il y avait deux oncles à Miro. Donc ce n'est pas des gens tout à fait de peu, mais ce sont des bourgeois du Tarn, et du moins du côté de sa mère, et du côté de son père, où ils sont moins aisés, plus populaires. En fait, son père était un raté, qui était beau garçon, donc Madame Jaurès, la mère de Jean, était tombée dans ses bras pour cette raison-là, et puis il a été absolument incapable de s'occuper sérieusement de ses enfants et de gagner sa vie normalement. Donc ils avaient fini par acheter une tout petite bout de terre au-dessus de Castres, qui s'appelle la Fédiale, et il était censé vivre de la terre qu'il cultivait. En fait, c'était Jaurès et son frère, Louis, qui faisaient le travail, et le père, pas grand-chose. Ouais. C'est pas du tout une famille ouvrière. Hein. Il a de la terre à ses souliers, c'est plutôt un milieu paysan, le milieu où il a passé son enfance. Et du point de vue des origines, c'est plutôt ce qu'on appellerait à l'époque une famille bourgeoise, d'ailleurs aujourd'hui encore, une famille bourgeoise. Il n'est pas non plus du tout autodidacte, alors absolument pas, à la différence des ouvriers qui créent cette bibliothèque. Absolument pas, puisqu'il est élève au collège de Castres, comme c'est un très très brillant élève, il y a des histoires, on raconte qu'un inspecteur général, passant un jour, bon, il s'étonna de voir ce gamin qui savait si bien le latin, il avait déjà été repéré par le préfet, parce qu'il avait écrit un compliment pour le préfet en 5 ou 6 minutes, alors que le professeur de première qui devait présenter le compliment était absolument incapable de le faire, bon, donc il se fait repérer pour ses talents, il obtient, sa mère obtient pour lui une bourse pour venir préparer l'école normale supérieure à Paris, donc il vient à Paris, il prépare normale supérieure. Bien. Alors, et il était reçu premier à normale supérieure et troisième à la grecque derrière Bergson, ce qui n'était quand même pas déshonorant. Bon. Donc, il est, c'est le contraire d'un autodidacte. Hein. Il suit le cursus honorum le plus classique de la. Enfin, moi, celui que j'ai suivi aussi, oui. On ne peut pas dire qu'on est des autodidactes dans ces cas-là. Hein. Vraiment, on suit le cursus normal de l'accès aux grandes écoles, après les grandes écoles, l'agrégation, après une thèse d'État. Avec une thèse secondaire en latin sur les origines du socialisme allemand. Il fallait dire ça en latin, c'était bien. Mais enfin, il n'a en rien autodidacte. Bien. Et j'ajouterais que même au plus fort de l'affaire Dreyfus, à laquelle il sera très lié dans les années 1898 jusqu'en 1906, on en dira deux mots tout à l'heure, il ne fait pas partie du tout des gens qui font confiance à la bourgeoisie libérale, aux professeurs, pour créer ce qu'on appelle à l'époque des universités populaires, c'est-à-dire des lieux de rencontre, des lieux où les profs venaient enseigner leur discipline aux ouvriers et convaincre les ouvriers que pour s'instruire, pour devenir de meilleurs citoyens et pour ne pas tomber dans l'antidreyfusisme, pour ne pas devenir antisémite ou bien ne pas être soumis au clergé le plus honteux de l'époque, je conduisais très mal le clergé à l'époque de l'affaire Dreyfus, hein. Il fallait que les ouvriers suivent les cours des profs. Bon, alors lui, il n'aime aucune confiance là-dedans. Des lieux destinés à éduquer le peuple, des universités populaires destinées à éduquer le peuple, il déteste ça. C'est pas du tout sa génération. Hein. Alors, on est déjà à plus de 30 ans par rapport à l'époque où les ouvriers créaient votre bibliothèque. Donc, en un sens, c'est vrai, il n'y a rien de tout ce que je viens de vous dire, qui permettent d'insérer Jaurès sous une forme ou sous une autre, hein, dans la tradition, dans le courant de votre association. Et c'est bien ainsi, finalement. C'est bien ainsi. Alors pourquoi il est comme ça? Pourquoi en particulier il refuse de façon si, non pas véhémente, parce qu'on n'a pas de texte de dénonciation, mais il refuse en fait de participer au courant des UP, ce qu'on appelait les UP, les universités populaires. Alors que beaucoup de ses amis, de ses camarades, de ses copains d'école normale, SUP, enfin de tous ces gens-là, sont très actifs dans les UP. Bon, ils ne signent jamais rien en faveur des UP, ils ne parlent jamais dans une UP, jamais. Pourquoi? C'est parce que cet intellectuel, c'est représentatif, d'une certaine manière, hein, de la République, du cursus honorum, comme on dit en latin, de la République. Bon, donc l'école primaire, après collège, après normale sup, après cagne, après normale sup, après agrègue, après thèse. Donc cet intellectuel dont le cursus honorum est parfait, il ne se prend pas pour un intellectuel. Et il refuse d'en adopter les modes. Et ça, c'est un point sur lequel les jeunes chercheurs qui sont très actifs dans la Société d'études jaurésiennes ont beaucoup travaillé autour de moi, mais c'est pas moi qui. On a travaillé ensemble, disons, bien. Et on a bien mis cela en évidence. Alors, en quoi est-ce qu'on voit qu'il ne se prend pas pour un intellectuel? Vous savez, les historiens, les sociologues, ils ont mis en place des critères qui sont ceux qui permettent de distinguer par leur pratique, pas seulement par la profession, mais par leur pratique, les intellectuels, comme ça à la fin du XIXe siècle, de ceux qui ne le sont pas, ou qui ne se réclament pas de ce statut. Bon. Alors, d'abord, il écrit pratiquement pas dans des revues. C'est pas du tout un homme de revue. Or, tous les grands intellectuels de son temps, dès qu'ils ont quelque chose à dire, hein, ils font des revues, ou bien ils écrivent dans des revues fondées par d'autres, ils ont ce qu'on appelle des stratégies de revues. Ils utilisent les revues comme des lieux où développer leurs idées et où se faire des disciples indépendamment de leurs élèves en faculté. Hein. se faire des disciples. Et c'est vrai que moi j'ai dirigé, j'ai créé avec d'autres amis, avec Jean Métron, on avait créé le mouvement social, notre revue Le Mouvement Social, qui vit toujours, loué soit grand Dieu, bon. Et c'est vrai qu'on a très facilement un cénacle de disciples, d'amis autour de soi, qui sont plus jeunes que vous, au début ils ont votre âge, après vous vieillissez un peu, c'est les plus jeunes qui arrivent, bon. Donc c'est très facile de créer ainsi, de se créer ainsi des disciples. Alors Jaurès n'écrit pas, enfin il a écrit bien sûr deux ou trois grands articles dans de grandes revues, mais très peu, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le journal. Il écrit pas dans les revues, il écrit dans les journaux quotidiens. À l'époque, il n'y a pas d'hebdomadaire, enfin pratiquement pas. Le News, là, c'est pas du tout la France de la fin du 19e siècle. Par contre, il y a une floraison incroyable de journaux dans la société française. Et Jaurès, depuis 1887, écrit tous les 8 jours, tous les 15 jours, ça dépend des moments, dans la Dépêche de Toulouse, qui à l'époque est un grand journal de gauche du Midi, très anticlérical, parce que le Midi de gauche était très anticlérical. Bon. Il écrit pendant plusieurs années, de 1893 à 1903, dans un quotidien de Paris qui s'appelle La Petite République. Il écrit parfois tous les jours, parfois deux fois par jour. En même temps, il lui arrive d'écrire dans trois ou quatre autres journaux la même semaine, par exemple La Lanterne ou Le Matin, etc. Bon. Et à partir de début de 1904, avril 1904, il fonde l'Humanité à Paris. Et donc, c'est dans l'Humanité qu'il écrit jusqu'à son assassinat, en 31 juillet 1914, donc il écrit son article quotidien. Voilà, c'est un homme qui écrit dans des quotidiens et des quotidiens militants. Parce que la Dépêche de Toulouse, à la différence de ce journal aujourd'hui qui est comme beaucoup de journaux de province, une exception c'est Ouest France, qui est quand même un journal tout à fait intéressant et qui a gardé une physionomie enfin culturelle, disons pas intellectuelle, mais culturelle forte. Autrement, le journal de province, il n'y a plus rien dedans. Les extraits qui passent, ça serait pareil. Bon. Mais à l'époque, c'est pas le cas du tout. La Dépêche est un journal extrêmement militant, anticlérical, de gauche, etc., etc. Bon. Et puis autrement, ce sont des journaux socialistes, qui sont reconnus comme... Pas l'expression d'un parti, c'est un autre problème, ça n'intéresse personne, c'est des journaux socialistes. Voilà. Alors, il y a une deuxième raison pour laquelle il ne se prend pas, qui montre qu'il ne se prend pas du tout pour un intellectuel, il ne signe jamais les pétitions d'intellectuels. La pratique de signer des pétitions, d'abord de les écrire, et puis de les signer, cette pratique date de l'affaire Dreyfus. Hein. On dit que c'est pendant l'affaire Dreyfus qu'est né le mot intellectuel, employé substantif, c'est pas vrai, mais ce qui est vrai, c'est que c'est l'affaire Dreyfus, enfin du moins 1893-1898, ces années-là, que date le fait que des intellectuels vont sortir de leur bureau, de leur laboratoire, de leur salle de cours, hein, de leur bibliothèque, et se mettre à écrire des textes et à les signer, à les faire signer autour d'eux. Il n'a jamais signé une pétition, Jaurès. Hein. Et pour toutes sortes de raisons, et la principale à mon avis, c'est qu'il ne se prend pas justement pour un intellectuel. Il se considère, quoi qu'il soit intellectuel de formation et de profession, qui a été prof de fac quand même jusqu'en 93, bon. Mais il se prend pour un militant socialiste, voilà. Et c'est ainsi qu'il se voit, et c'est la raison pour laquelle il n'entend pas participer à des activités qui, professionnellement parlant, marquent des milieux auxquels il appartient par sa culture, mais pas par sa manière d'être. Voilà. De même, il ne fréquente pas du tout les salons. Il ne fréquente pas du tout les salons, alors que, à l'époque, tout le 19e siècle, mais plus particulièrement la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e, le moment où il y a énormément de salons très variés, très divers, il n'en a vraiment fréquenté qu'un, et avec beaucoup alors d'affection, je dirais. Celui qui était tenu par une marquise, enfin elle n'était pas plus marquise que moi, elle s'appelait Arconati Visconti, c'est son mari qui était marquis. C'était la fille d'un ami de Gambetta, du grand leader républicain Gambetta, et elle avait épousé à 23 ou 24 ans, je crois, ce marquis italien, qui avait eu le bon esprit, parce que je crois que c'était pas très bien entendu avec lui, de mourir au bout de 2 ans, et lui donc laisser une énorme fortune, et le titre de marquise Arconati Visconti. Elle était très dreyfusarde, très anticléricale, après ils ont eu très grand désaccord, elle et lui, et il a fini par ne plus venir dans ce salon, mais il l'a vraiment fréquenté de 1904 jusqu'en 1912, enfin, dernière présence de Jaurès attestée est en 1913. Voilà, mais c'est une exception. En général, il ne met pas les pieds dans les salons, ça l'ennuie. Bon, alors, voilà, vous comprenez, j'évoque là donc un certain nombre de raisons qui font que, bon, il ne se prend pas pour un intellectuel, il ne se... et donc, il ne va pas se mêler à des mouvements de culture du peuple. Mais il y a encore une autre raison beaucoup plus importante. Hein. qui explique qu'il ne se soit pas mêlé au mouvement des universités populaires et à la constitution de bibliothèques pour le peuple. C'est que, dans le domaine des échanges intellectuels, qu'est-ce qu'on peut échanger, qu'est-ce qu'on peut faire savoir, qu'est-ce qu'on peut faire connaître à des gens qui ne sont pas votre famille ou vos camarades immédiats, comment est-ce qu'on peut échanger? Bon. Alors, ce qui l'intéresse, c'est essentiellement les rapports entre Paris et la province. Alors, il a commencé sa vie intellectuelle et sa vie politique aussi dans le Tarn et à Toulouse. Bien. Et à partir de 1893, il est député, donc il vient s'installer à Paris avec sa jeune femme et son premier enfant. Le second naîtra un peu plus tard. Bon, donc il s'installe à partir de ce moment-là à Paris. Mais tout en vivant à Paris, il continue à collaborer à la Dépêche de Toulouse et il est absolument convaincu qu'il faut faire circuler les idées entre la province, son midi à lui, notre midi comme il dit, et puis Paris. Et c'est vrai que les idées ne circulent pas bien à l'époque. Il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télé. Les grands quotidiens parisiens, personne ne les lit. En province, on lit la Dépêche de Toulouse. À Toulouse, ou bien on lit le Télégramme, le journal d'extrême droite de Toulouse. Ou bien on lit des petites feuilles de choux qui paraissent au moment des élections cantonales. Bon. Mais les Parisiens ne lisent pas ce qui se fait en province, et les provinciaux ne lisent pas, ne s'intéressent pas à ce qui se fait à Paris. Alors il essaye de créer ainsi ses relations, et il ouvre dans la Dépêche de Toulouse, en plus des articles qu'il y écrivait tous les 8 jours ou 15 jours, une rubrique, alors toutes les quinzaines, qu'il ne signe pas Jean Jaurès, qu'il signe le liseur, mais quand on lit, on voit très bien que c'est lui, de toute façon on a retrouvé, enfin bon, on a toutes les preuves, c'est lui, et à travers cette rubrique, il met en communication les gens, les lecteurs de la Dépêche de Toulouse, qui sont des gens du peuple, hein, de toutes sortes de gens, toute la petite bourgeoisie, tout ça, ouvriers, tout ça, tout le monde lit la Dépêche, tous les gens de gauche lisent la Dépêche, voilà. Il les met en communication avec les livres qui viennent de paraître à Paris, donc il présente les livres qui paraissent à Paris, y compris des livres écrits par des auteurs qui appartiennent absolument pas à son courant d'opinion politique, ou des gens qui écrivent absolument pas comme lui, pas de sa manière d'être. Bon. Et inversement, il présente aux Parisiens, à travers ses articles, des livres ou des manifestations culturelles, etc., qui se produisent dans le Sud-Ouest. Alors, il crée ainsi ce système d'échange. Et grâce à ça, nous possédons aujourd'hui la totalité, enfin, nous avons répertorié tous les articles qu'il a écrits dans la Dépêche, comme des articles de critique littéraire, un peu critique d'art aussi, mais surtout critique littéraire, puis il en a écrit d'autres après. Et ces articles font de Jaurès un très grand critique littéraire, un des plus grands critiques littéraires de la fin du XIXe siècle, ce que personne ne sait. Alors c'est la raison pour laquelle on se bat comme des fous, enfin moi en tout cas j'essaie, pour qu'on arrive à publier 18 volumes d'œuvres de Jaurès, ce qui est très peu, parce que si on publiait tout, ça ferait au moins 60 volumes. Mais le premier de ces volumes est consacré à Jaurès critique littéraire. Et il comporte essentiellement ces textes que personne n'a, enfin que les gens de l'époque ont lus. Mais une fois que c'était fini, plus personne n'a lu, et c'est une jeune étudiante qui a une trentaine d'années à retrouver les premiers de ses textes et a dit, mais enfin, est-ce que ça ne serait pas de Jaurès ça, si bien qu'on s'est mis à collationner, à travailler, à percuter, voilà. Donc, dans le domaine des échanges intellectuels, ce qui l'intéresse, c'est Paris-Province. Et d'autre part, dans le domaine de la culture ouvrière, il fait partie des gens qui sont des militants socialistes, c'est pas le cas pour tous, hein. Il fait partie des militants socialistes qui pensent qu'il y a une culture syndicale, une culture ouvrière qui vient du syndicalisme, qui est forgée par le syndicalisme. Ou comme on disait à l'époque, enfin, on commence à dire le syndicalisme, mais on disait encore par les sociétés ouvrières, celles auxquelles a participé Girard, enfin bon, tous les fondateurs de cette bibliothèque, hein, qui venaient du monde de la typographie ou de la lithographie, qui étaient des gens très organisés, sociétés ouvrières, tous sont sortis du syndicalisme du livre, comme on dit. Comme on ne dit plus aujourd'hui, puisque ça ne s'appelle plus comme ça. Et ça s'appelle la FILPAC, le syndicalisme du livre. Mais à l'époque, on disait le syndicalisme du livre. Donc, il croit à la valeur de cette culture syndicale. Il pense que par cette culture syndicale, les travailleurs, les salariés opprimés, qui travaillent encore très souvent 12 heures par jour, c'est pas le cas pour tous, non, ouais, ils travaillent beaucoup moins, mais dans certains travaillent encore 12 heures par jour, il pense que le syndicat les aide à s'élever au-dessus d'eux-mêmes, à concevoir, à puiser dans leur force, pas comme individus, mais dans leur force collective, leur force, celle que leur donne le syndicat. Et les actes héroïques que conduit le syndicalisme, notamment les grèves, dans les grandes grèves, la force de se surmonter, d'apprendre le sacrifice, d'apprendre à souffrir pour que le métier, ou bien pour que l'entreprise, pour que l'usine, pour que la fabrique fonctionne mieux, pour élever ses camarades, pour convaincre les camarades qu'on peut faire plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent et que les ouvriers ne sont pas seulement des opprimés, mais aussi l'espérance de l'humanité, ce dont Jaurès est profondément convaincu. Que les ouvriers sont la classe ouvrière, comme il dit, et l'espérance de l'humanité. Donc, dans le domaine de la culture ouvrière, il ne pense pas du tout que c'est à lui d'apporter, par des livres, ou des procédés variés, ou des universités populaires, la culture aux ouvriers. Il pense que les ouvriers se créent eux-mêmes leur propre culture. Et que, notamment, il l'a créée dans le cadre du syndicalisme. Ça n'empêche pas d'écrire sur le syndicalisme, évidemment, d'écrire là-dessus. Mais il ne va pas aller donner des leçons. Il déteste ça, donner des leçons à la classe ouvrière, il a ça absolument en horreur. Bon, il croit par ailleurs à son propre dialogue avec les ouvriers, parce que dès qu'il est élu député de Carmaux en 1800, janvier 93, donc il le restera jusqu'à sa mort, sauf 4 années entre 98 et 1902, au tournant du siècle, il descend à Carmaux, comme on dit, tous les 8 jours, non, mais au moins tous les 15 jours. Et ça faisait plus de 13 heures de train, hein? Plus de 13 heures de train, presque 14 heures, Carmaux. Bon. Pour aller rencontrer le syndicat des mineurs de Carmaux, pour aller exposer son activité au Parlement, ou bien son activité dans les meetings à travers la France, pour en parler avec les socialistes de Carmaux, et pour... pas seulement pour parler lui de ce qu'il a fait, mais pour recueillir leur avis, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait. Évidemment, en gros, il pense qu'il a bien fait, donc s'il n'est pas d'accord avec eux, il essaye de les convaincre. Mais ce n'est jamais de la culture de l'extérieur, c'est toujours des grands problèmes qui intéressent passionnément la classe ouvrière, la constitution des premières retraites ouvrières, la lutte contre les accidents du travail, la défense des travailleurs dans les grèves, comment faire pour sauver une grève à Carmaux en 1895, au moment de la grande grève des verriers de Carmaux. C'est lui qui prend la décision, parce que le syndicat des verriers de Carmaux lui a demandé ce qu'il devait faire. C'est lui qui prend la décision de dire aux verriers: vous ne pouvez pas rester à Carmaux, le patron ne vous reprendra jamais. C'est un réactionnaire fiefé, quoique il soit républicain, ça n'empêche pas, hein, républicain et réac. Donc, républicain et réac, il ne vous reprendra jamais, ne croyez pas cela, et vous n'avez qu'une solution, c'est de quitter Carmaux. Et les ouvriers quittent Carmaux, il y a 300 ouvriers, donc verriers, métier très bien payé, les verriers. On mourait à 35 ans dans la verrerie. Mais jusqu'à 35 ans, c'était abominable. Mais jusqu'à 35 ans, on gagnait beaucoup d'argent. Hein? Enfin, beaucoup d'argent par rapport à la classe ouvrière de l'époque. Donc, il part avec eux, il trouve de l'argent pour qu'il puisse édifier une autre verrerie qui appartiendra aux ouvriers. Ça s'appellera la verrerie ouvrière d'Albi. Pour lui, c'est un choix tout à fait... Il pense qu'il le faut pour les ouvriers verriers. Mais il sait très bien qu'en même temps, il va être battu à Carmaux. Parce que les verriers étaient sa clientèle très fidèle, votaient pour lui, comme les mineurs. Et que d'autre part, les verriers, comme ils gagnaient beaucoup d'argent par rapport aux autres, dépensaient beaucoup pour bien manger, bien s'habiller, etc., aller au bistrot. Et que les commerçants de Carmaux sont fous de colère de voir partir les verriers. Alors Jaurès n'hésite pas, c'est pas un problème pour lui. Il faut que les verriers s'en tirent, donc hein, on part, voilà. Et on va créer une autre boîte ailleurs. Et du coup, il est battu à Carmaux, aux élections de 98, pour avoir aidé les verriers de Carmaux à quitter la ville. Donc il croit à ça, à son propre dialogue avec les ouvriers. Bien, alors... donc j'ai passé cette première partie de mon exposé là, bon, à essayer de dire le plus simplement possible, et de façon, bon, en essayant d'ordonner les choses, hein, pour que, enfin, bon, si c'est pour dire que Jaurès est un grand homme, c'est vite fait, bien fait. Mais si c'est pour faire un peu comprendre en quoi c'est un personnage original et un peu exceptionnel, et en même temps en quoi il est de son temps, hein, mais exceptionnel en même temps, alors il faut se donner un peu de mal. Donc c'est ce que j'essaie de vous montrer dans cette première partie. Alors maintenant, on pourrait essayer de regarder ensemble, mais ça aussi, ça ira vite, parce qu'après, il faut qu'on puisse discuter. Ça ira même très vite. C'est les choix qu'il fait pour l'avenir de la société française. Comment est-ce qu'il se représente l'avenir de la société française ? On a un petit peu tendance à penser aujourd'hui que nos hommes politiques n'ont pas une représentation bien claire de l'avenir et ne sont pas surtout capables de faire des choix pour l'avenir de la société. Pour Jaurès, si, c'est quelqu'un qui acquiert assez tôt, dès 1891, et certainement dès janvier 93, une vision forte de ce que sera un jour, pas demain, hein, la société française. Bon, alors, dans quoi ça épuise des forces pour... et puis des idées aussi, ça ne sort pas tout armé de sa tête, ça. Ça n'existe pas, les gens, ils sont tous... Même les génies, ils puisent dans leur expérience, dans ce qui se passe autour d'eux, dans les lectures, enfin, dans toutes sortes de choses. Alors, ces convictions pour l'avenir de la société française, il faut dire qu'il les puise alors d'abord dans sa philosophie. Parce que Jaurès n'est pas seulement un professeur de philosophie qui a passé l'agrégation, qui a soutenu une thèse, mais il a une philosophie qui lui est personnelle et qui s'est d'ailleurs très bien, qui a été formulée d'une façon qui n'est pas toujours très, très limpide, mais qui est très intéressante dans sa thèse principale qui s'appelait « La réalité du monde sensible ». La réalité du monde sensible. Vous savez, c'est un grand problème en philosophie. Hein. Est-ce que le monde matériel, le monde sensible, celui qu'on sent par tous les sens, bon, est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il existe réellement? Ou bien est-ce que c'est la pensée de l'homme qui fabrique les catégories, enfin qui fabrique les... catégories, c'est un mot trop savant. Les moyens par lesquels nous percevons le monde. Bon. Alors il y a un très grand penseur qui s'appelle Kant qui dit justement que c'est la pensée de l'homme. Qui informe le monde, qui constitue en réalité le monde, Jaurès est convaincu que non. Il a bien sûr lu Kant, de son temps tout le monde disait Kant, mais il pense que le monde est réel, que l'univers est réel, que le monde sensible, les paysages, la terre, les machines, les hommes, les animaux, tout cela, tout ce que les sens permettent d'atteindre, est réel. Bien. Et il appelle... cette réalité, c'est un peu compliqué à dire, si vous avez jamais fait de philosophie, c'est un peu compliqué à dire, hein. Mais il pense que cette réalité vient de la manière dont un concept de philosophique qu'on appelle l'être, donc l'être, tout entier, l'être des animaux, l'être de la nature, l'être des hommes, des femmes, c'est l'être qui est dégradé, qui se transforme, que nous percevons dans un état, oui, enfin un petit peu, si vous voulez, dégradé par rapport à ce qu'était l'être originel. Bon, alors c'est une pensée dont on peut dire qu'elle a une origine chrétienne. L'idée que la mère de Jaurès était très pieuse, il a perdu la foi catholique complètement, alors quand il était élève de préparation à Normale Sup à Paris, donc il avait 18 ans. Mais il garde cette idée. Alors, est-ce que l'être pour lui, c'est Dieu? Est-ce que l'être, c'est cet univers avec lequel il a contact de temps en temps, mais dont il, la plupart du temps, comme tout le monde, il ne voit que la menue monnaie, les tables, les chaises, les livres, tout ça. Bon. La menue monnaie de l'être. Bon. Alors, la conviction de Jaurès, c'est que cet être... qui peut-être, à un certain moment, quand il était très jeune, a pu être confondu avec Dieu, ou peut-être Dieu est confondu avec l'être, cet être se manifeste partout autour de nous. Et que l'objectif des gens qui veulent transformer la société, c'est de faire un jour en sorte que tous ceux qui vivent dans toutes les sociétés, pas seulement en France, pas seulement à Carmo, à Toulouse, à Castres, etc., pas seulement à Paris, pas seulement en France, pas seulement en Europe, partout dans le monde, c'est que tous ces gens-là puissent percevoir, comme ça, comme lui il perçoit, l'extraordinaire diversité de la vie sous toutes ses formes, donc ces modes un peu dégradés de ce qu'il appelle l'être. Dégradé ne veut pas dire que c'est... Il ne croit pas du tout au péché originel, alors ça, absolument pas. Donc oui, il n'est absolument pas chrétien. Il ne croit absolument pas au péché originel. Bon, il ne croit pas en Christ, donc il n'est donc absolument pas chrétien. Mais la philosophie est une pensée très ancienne, un mode de pensée très ancien, et à la limite, on pourrait dire plus exactement de Jaurès, qui serait plutôt un disciple de ce qu'on appelle les pré-socratiques, les philosophes qui ont pensé avant Socrate. Bon. Donc oui, disons les pré-socratiques, les Éléates, les Énéides, enfin bon, les Éléates. Pas les Énéides, c'est une bêtise que je dis, les Éléates, bon, ou d'autres. Voilà. Alors, c'est cette philosophie personnelle qui le met en contact sensible avec toutes les souffrances, avec toutes les joies, avec tous les objets, tous les êtres, tout ce qui est vivant ou mort, peu importe, hein, dans laquelle il fonde sa, la façon dont il perçoit l'avenir de la société. La société sera bien, elle fonctionnera justement, de façon juste, normale, quand tous les êtres humains pourront participer à cet accès à la, à la, à la diversité de l'être, si vous voulez. Bon. Bien. Alors, ça, c'est très bien de penser ça. Mais ça peut rester une pensée philosophique. Ou du moins, ça peut donner matière à des cours, ça peut donner matière à des livres, ça peut donner matière à écrire des poèmes. À écrire des poèmes. Ça peut, il n'écrivait pas de très bons poèmes, il en a écrit, mais qui ne valaient pas tripette. Mais il était très sensible à la beauté de la forme des vers et de la prose. Il était très, très sensible. Mais je ne suis pas sûr que la poésie était son... son mode d'expression le privilégié. Mais enfin, ça peut donner naissance à tout ça, des modes d'expression littéraires ou musicaux ou artistiques. Bon. Mais ça ne... Et en se disant, un jour, tout le monde pourra en profiter. Mais ça ne forge pas du militantisme, ça. C'est pas avec ça qu'on fait des militants socialistes. Hein. Donc, le militantisme socialiste, qui pour lui n'est pas du tout... est parfaitement compatible avec ce que je viens d'essayer de vous dire, qui est sa raison de se battre dans la vie, hein, sa raison de ne jamais arrêter, de ne jamais prendre 5 minutes, de ne jamais prendre le temps, alors qu'il voudrait tant le prendre, de se coucher dans le foin et puis de respirer les odeurs des herbes, enfin, oui, plantes, vous voyez, bon. Alors, ça vient tout à fait d'une autre source, hein, ça vient de ce que, de la lecture, d'une part, d'un certain nombre d'auteurs socialistes, et puis de la connaissance pratique qu'il a des, de la société dans laquelle il vit. Alors, la lecture d'auteurs socialistes, le principal, celui qu'il cite à maintes reprises, quoiqu'il discute beaucoup avec lui, hein, il discute beaucoup avec lui, il était mort quand Jaurès commençait à le lire, c'est Karl Marx. Hein, et aux yeux de Jaurès, il n'y a nulle contradiction entre la pensée économique et sociale que Marx formule, qui est une pensée de l'universel, qui est une pensée de la classe ouvrière comme agent de l'universel, comme agent qui créera le monde et le mettra à la disposition, le monde nouveau, et le mettra à la disposition de tous. Il n'y a à ses yeux nulle contradiction, pour l'essentiel, hein, entre la pensée de Marx et puis sa philosophie de l'être. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne discute pas avec Marx, il discute avec les textes de Marx, puisque donc Marx est mort en 83, et à ce moment-là, Jaurès sortait, venait de passer l'agrégation, hein. On ne lisait pas beaucoup Marx à l'école normale supérieure. À l'époque, d'ailleurs, aujourd'hui, on ne lit plus du tout, sauf qu'il est en train de revenir. Moi, je vois bien autour de moi. Je suis très près ces débats. Moi, je vais réapparaître Marx partout. Dans 5 ans, tout le monde reparlera de Marx. C'est les modes, ça, en France, comme ça, les modes. C'est ridicule. Les grands hommes, on les retrouve toujours. Les grands penseurs, on les retrouve toujours. Alors, Marx lui a permis de découvrir quoi ? La nature de la société capitaliste. Et les modes de fonctionnement, c'est pas la nature, c'est une façon de parler, mais les modes de fonctionnement de la société capitaliste. Et Jaurès a écrit des pages absolument sublimes, notamment dans le livre qu'il publie en 1910, qui s'appelle « L'armée nouvelle », dans lequel il propose des réformes fondamentales pour l'armée française, mais il y a aussi dans ce livre des chapitres magnifiques, chapitre 9, chapitre 10, dans lesquels, d'ailleurs, il controverse avec Marx. Mais en même temps, il montre bien ce qu'il doit à Marx, l'analyse de la société capitaliste. Société productrice de richesses, car le capitalisme a changé le monde en faisant circuler l'argent et en mettant en avant les capacités de production des biens matériels, des machines, des objets, de ce que nous mangeons, de ce que, hein, bon, des trains, des automobiles, comment l'automobile commence là, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Bon, la production de biens matériels. Et il montre que le système capitaliste, hein, à travers le maniement du capital et à travers la production de biens matériels, change l'humanité et élargit l'horizon des travailleurs et de toute la société d'ailleurs, en obligeant les gens, parce que pour que le capitalisme fonctionne, pour que les capitalistes gagnent du fric, Il faut qu'ils utilisent les travailleurs, on va parler de ce qu'ils disent, mais en les obligeant à quitter les champs, à quitter la campagne, à venir dans les villes, à venir travailler dans les usines, parce que pour toutes sortes de raisons, on ne peut plus vivre à la campagne. On ne peut plus vivre avec la manière de cultiver les champs qui était traditionnelle. Il faut les cultiver autrement pour pouvoir survivre, pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Et maintenant, les paysans, ils sont en République, ils veulent envoyer leurs enfants à l'école, alors que 50 ans avant ou 100 ans avant, ils ne pensaient pas envoyer leurs enfants à l'école. Maintenant, il faut les envoyer à l'école. Bon, les enfants de paysans peuvent venir ouvrier, instituteur, tout ce que vous voudrez, postier, enfin les grands postiers, c'était ce qu'on faisait de mieux à l'époque. Bon, bien sûr, bien sûr. Bon. Et donc, cela élargit l'horizon. Hein, élargit l'horizon, pas seulement du petit village, du bourg, etc., à la ville, mais au niveau de la région, au niveau national. Et je vous signale que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la communication entre la province et Paris, par le moyen de la critique littéraire, horizon, et à l'horizon international. Et alors, il y a dans Marx, dans Jaurès, mais c'est aussi dans Marx, les plus grands éloges du capitalisme qu'on ait jamais écrit. En France. La même chose dans Marx, exactement. Parce que les grands penseurs en économie sont capables de faire l'éloge de ce qu'ils combattent et après d'expliquer pourquoi néanmoins ils combattent le mode, le fonctionnement du capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme, le capitalisme. Parce que c'est très bien de dire qu'il y a du fric, qu'il y a de l'argent, hein, bon bref, que l'argent circule, que l'horizon des gens s'est élargi, mais en fait... et ça, c'est un problème que nos amis, même des expositions universelles, je crois, les expositions universelles sont une des voies par lesquelles on découvre qu'il y a des choses qui se passent en dehors de l'Europe, hein, de la France. Mais enfin, ils n'avaient aucune idée, à l'expo de 67, c'est l'année où Marx écrit Le Capital, le livre 1 du Capital paraît en 1867, l'année de l'expo, dont on parlait tout à l'heure, là, dont j'avais parlé dans ce petit volume. Bon, mais aucun d'entre eux n'en a l'ombre d'une idée. Leur horizon est bien trop étroit, bien trop resserré, bien trop fermé sur leur métier, fermé sur leur quartier, fermé sur la ville de Paris. Ils n'arrivent pas à voir au-delà. Hein? Bon, et Marx apprend à voir au-delà, à travers le capital, et puis... La production de richesse, c'est pas les capitaux qui produisent les richesses. Ils produisent rien tout seuls, les capitaux, rien du tout. Vous pouvez toujours, hein. Le capital peut produire du capital. Bon, M. Soros ou n'importe quel grand capitaliste du monde accumule des capitaux et peut ruiner n'importe quel État en 3 jours, comme ils ont failli le faire il y a quelques années avec le Mexique. Donc l'argent peut ruiner, il peut détruire, mais il peut aussi créer. Mais pour créer, il faut qu'il soit associé au travail. Et sans travail, il n'y a pas de production de richesse. Alors aujourd'hui, je vous signale qu'aujourd'hui, on vous raconte tous les jours dans la presse à la mode que bientôt il n'y aura plus de travail, que bientôt les gens pourront acquérir toutes les richesses qu'ils veulent, même plus ou moins naturellement, bon, sans qu'il y ait de travail, hein, par la seule grâce du capital. Ce sont des idées complètement folles, mais folles, et qui sont écrites tous les jours dans de très grands journaux, de très grands quotidiens français. Bon, il n'y a de production de richesse que par l'association du capital et du travail. Ça, c'est bien clair. Bon. Alors, alors pourquoi est-ce que ce système, après tout, c'est très bien, associer le capital et le travail, c'est très bien, ça marcherait, ça s'appelle le capitalisme. Oui, mais ce que j'aurais, après Marx d'ailleurs, et vraiment dans ce domaine-là, il est disciple de Marx, montre en même temps, c'est la capacité du système capitaliste, c'est-à-dire système où il y a le capital et le travail. Le capital qui fonde les usines, achète les machines, etc., achète la matière première, vend ensuite, et puis les ouvriers qui travaillent, puis les ingénieurs qui guident le travail des ouvriers, ou les cadres, tout ce qu'on veut, les contremaîtres, tout ça. Bon, alors pourquoi est-ce que, il faut quand même que Marx et Jaurès mettent en accusation le système capitaliste, pas le capital en tant que tel, mais le système capitaliste. Pourquoi ? C'est parce que le capitalisme, le système, détruit ce qu'il produit, au fur et à mesure qu'il le produit. Alors il est détruit de bien des manières, il le détruit d'abord parce qu'une partie de ce qu'il produit est de très mauvaise qualité, et donc est jetable, doit être éliminé dans un délai très rapide. Bon, aujourd'hui, on ne dirait pas tout à fait ça, mais on jette beaucoup quand même. Mais aujourd'hui, on dirait aussi que le capitalisme, le système capitaliste, détruit la nature. Hein? Détruit la nature, entasse les débris, les déchets. C'est là-dessus que se fondent toutes les campagnes de des amis écologistes qui sont présents dans la vie civique, dans la vie politique française. Là. Bon, ils disent ça, ils ont raison. Mais détruit encore autrement. Hein? Il détruit en exploitant les travailleurs. En exploitant les travailleurs de telle manière que la vie des travailleurs est plus courte quand ils sont exploités qu'elle l'était lorsque les travailleurs vivaient à la campagne. Malgré des médecins, malgré des progrès de la médecine, malgré la présence de la médecine dans des régions, dans des bourgs, dans des petites villes où il n'y avait pas de médecins auparavant, ou très peu, malgré tout cela, l'exploitation du travail des producteurs, travail des ouvriers et de ceux qui sont avec eux, bon, est telle que ces hommes sont littéralement détruits. Et un des objectifs, d'ailleurs, que Marx avait donné au monde du travail, et qui était d'ailleurs pratiqué avant par les sociétés ouvrières, bien sûr, ça c'est pratique, bon, c'est de faire en sorte que les travailleurs soient le moins détruits possible. Donc que leur vie soit prolongée le plus longtemps possible, que là ils puissent accéder au maximum de la connaissance, que la durée de la journée du travail soit plus brève, que les salaires soient meilleurs, que les protections sociales, qu'on crée un minimum de protection sociale, notamment en cas de maladie, etc. Voilà. Ça c'est le but, c'est le moyen par lequel les travailleurs se battant contre les capitalistes et contre le système capitaliste, hein, parviendront à y échapper. Alors, bon, l'exploitation. Mais, d'après Jaurès, l'analyse, les conséquences du capitalisme n'a pas seulement comme conséquence d'exploiter ainsi les ouvriers et de les détruire, ce à quoi les ouvriers répondent en disant « nous ne nous laisserons pas détruire hein. ». Mais le capitalisme a aussi comme conséquence de détruire les valeurs mêmes de l'humanité, notamment par la colonisation. Alors, Jaurès n'est pas un adversaire forcené des colonies qui existent. Mais il constate ce qu'il ne voyait pas au début, ce qu'il ne voyait pas quand il était jeune homme, pas du tout alors. Il constate en vieillissant, parce que quand même, bon, que dans les colonies, même quand il y a des infirmières très sympathiques, des instituteurs très gentils, etc., et très, qui font de leur mieux, bon, c'est finalement les grands colons et d'autre part les firmes qui viennent de... Qui utilisent les matières premières des colonies, soit dans la colonie elle-même, soit en France, en l'achetant aux colonies à très très bas prix, hein, bien, qui ruinent les colonies alors que les colonies devraient prospérer si réellement, comme le dit la parole des hommes d'État, des hommes politiques, on conquérait des colonies pour leur apporter le progrès. Hein. Alors ce qu'ils voient, c'est que dans les colonies, on n'apporte pas le progrès. Et que c'est le contraire qui se passe. Naturellement, il y a des gens qui introduisent le progrès. Il y a des instituteurs, il y a des infirmières, il y a des médecins. Et puis, dans les colons, il y a aussi des braves gens. Le problème n'est pas de dire que tous les gens sont méchants. Le problème, c'est de décrire le système et de montrer comment fonctionne le système. Et puis, l'avant-dernier, c'est que finalement, le capitalisme produit la guerre. Le système capitaliste produit la guerre. Il y a des discours très célèbres de Jaurès, le capitalisme produit la guerre comme la nuée porte l'orage. C'est un très célèbre discours, son premier très grand discours en novembre 1893, le 26 novembre 1893. Bon. Et Jaurès passe une partie de sa vie quand il voit monter les menaces de guerre, pour toutes sortes de raisons détaillées, la conquête coloniale, et puis la haine entre la France et l'Allemagne, bon, et puis les rivalités des grandes firmes, hein, industrielles et capitalistes, financières, sont à montrer comment la guerre va naître du capitalisme et comment il faut lutter contre la guerre en jetant contre elle toutes les forces, pas seulement les forces des écrivains, etc. Non, les forces des ouvriers. Jeter toutes les forces ouvrières. Bon. Et la guerre, c'est finalement le comble des horreurs que produit le capitalisme, qui par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, produit des richesses, enfin, à condition que les gens travaillent, que les ouvriers travaillent pour lui, et puis ouvre les horizons. Bien. Et au total, dit Jaurès, le capitalisme, c'est pas tellement que les capitalistes le veulent, c'est pas les hommes qui sont méchants, hein, c'est le système. Enfin, du moins, c'est le point de vue de Jaurès, et c'était tout à fait le point de vue de Marx, ça aussi, d'ailleurs. Que fait le capitalisme? Il détruit l'homme lui-même. Il détruit l'homme à l'intérieur de lui-même. Et comment est-ce qu'il détruit l'homme à l'intérieur de lui-même? Il place l'homme dans la dépendance de la propriété. Le désir d'acquérir, le désir d'être propriétaire, le désir de s'enrichir, qui fonde le capitalisme, qui est le fondement même du capitalisme. Hein, gagner de l'argent et puis avec cet argent l'investir, enfin dans le meilleur des cas. Parfois aussi on n'investit rien du tout. Hein. Mais enfin, dans le meilleur des cas de l'investir et de produire, ce désir-là gagne tous les êtres humains, dans les économies, dans les sociétés qui sont soumises au capitalisme. Et la propriété privée, est aux yeux de Jaurès Et il le pense très très tôt, il le pense à partir de 1886, il est encore très jeune, très très jeune à ce moment-là, hein, puisqu'il est né en 59, il est vraiment très jeune en 86. Que la propriété privée, c'est la racine du mal à l'intérieur de chaque être humain. Mais cette racine du mal n'existe que parce que le système capitaliste propose aux êtres humains, y compris les plus pauvres, comme objectif, ou les riches, l'objectif de s'enrichir. Et alors, sur cette base-là, la condamnation de la propriété privée, la nécessité de trouver des modes de gestion collective de la propriété privée, de la propriété, ce qui est, elle sera plus privée si elle devient collective. Les socialistes français appellent cela le collectivisme. De ce point de vue-là, il est en entier accord avec les socialistes de son temps, tout particulièrement les Français, mais aussi les Allemands, etc. Bien. Et ce qu'il cherche, c'est des modes d'organisation de la propriété qui ne soient pas seulement rendre l'État propriétaire, mais par exemple rendre les syndicats propriétaires, rendre des régions propriétaires, des villes propriétaires, et surtout des syndicats. Il a énormément écrit, probablement c'était une utopie complètement, mais enfin il a énormément écrit sur la manière dont les syndicats devaient pouvoir acquérir la propriété de ces richesses qui, à l'heure actuelle, sont la propriété d'individus qui en font grand mauvais usage. Bon. Et c'est le point fondamental sur lequel Jaurès et les socialistes de son temps, mais lui avec une très grande clarté, c'est les radicaux, mais de ce point de vue-là, et au moment où Jaurès, c'est le plus près des radicaux en politique, il dit quand même, les radicaux ne pensent rien, c'est des gens qui ne pensent pas. Ils ont une vision électoraliste, ils ne comprennent pas les vrais problèmes de l'humanité, et notamment ils ne comprennent rien à la question, à l'aspect fondamental de la question de la propriété. C'est très intéressant, et alors même qu'il a d'excellents amis, radicaux, mais sur l'essentiel, ce parti radical socialiste, il est absolument incapable de comprendre ce qui est important. Voilà. Les radicaux, mais de ce point de vue-là, et au moment où Jaurès est le plus près des radicaux en politique, il dit quand même, les radicaux ne pensent rien, c'est des gens qui ne pensent pas. Ils ont une vision électoraliste, ils ne comprennent pas les vrais problèmes de l'humanité, et notamment ils ne comprennent rien à la question, à l'aspect fondamental de la question de la propriété. C'est très intéressant, et alors même qu'il a d'excellents amis, radicaux, mais sur l'essentiel, ce parti radical socialiste, il est absolument incapable de comprendre ce qui est important. Voilà. Alors au total, ça fait déjà un peu trop de temps que je parle, enfin bon, je vais terminer. Le petit bouquin que j'avais écrit là, vous en avez amené quelques-uns? Vous en avez quelques-uns là? Voilà, donc j'ai écrit il y a 2 ans. Bon, c'est pas pour que je vende le bouquin, mais c'est forfaitaire ça, alors je gagne pas un sou sur le bouquin. Mais je l'avais sous-titré en l'appelant La parole et l'acte. Et c'est vrai que, au total, entre les deux, enfin à la fois la vision de la société de l'avenir et puis les pratiques militantes et non intellectuelles qui sont celles de Jaurès, au total, ce qui fait que le souvenir de Jaurès, c'est que c'est tellement conservé, que sa présence est restée si forte et que nous travaillons encore à essayer de bien comprendre ce qu'il a dit, parce que c'est très difficile, il a énormément écrit. Bon, il a énormément, ses positions ont très souvent bougé, on essaie de comprendre pourquoi il dit ça à un moment, ça à un autre, enfin bon. C'est un travail d'historien, ça, travail d'historien. Mais au total, si ça a tellement circulé, c'est aussi parce que cet homme n'était pas seulement un acteur lui-même, mais aussi un très grand orateur. Et c'est ce mélange de capacité oratoire et d'action quotidienne que j'ai essayé de traduire en donnant ce titre, ce sous-titre, La parole et l'acte, à ce volume. Alors, une parole, on va commencer par la parole, parce que c'est quand même, quand on demandait aux Français il y a 20 ans, c'est qui Jaurès pour vous, il y avait du tas d'enquêtes qui avaient été faites de ce genre, il y avait 2 réponses. Une, c'est un type qui a été tué à la veille de la guerre de 14, et la deuxième, c'était un grand orateur. Et les 2 choses sont tout à fait vraies. Il n'est pas tué par hasard, d'une part, et d'autre part, c'est vraiment un immense orateur. Dans une époque où, bon, il y avait de très très grands orateurs, il les domine tous. C'est une parole qui est certainement liée à des dons personnels. Hein, là, une très belle voix, une gorge, une parole qui montait au début tout doucement, puis qui après s'amplifiait, qui résonnait, etc. Bon. Mais qui est aussi amplifiée par sa culture. Il a lu, et il a lu toute sa vie, énormément de grands orateurs. Il a lu Démosthène, il a lu Homère, qui est un très grand conteur, et donc, enfin, supposé qu'Homère ait existé, mais enfin, les bardes, disons, qu'on désigne sous le nom d'Homère, c'était effectivement de merveilleux conteurs. Bon, des gens qui savaient raconter, séduire, etc. Il a lu Cicéron, il a lu Bossuet. Et il passe son temps à... Il emmène tout le temps des bouquins, surtout le grec. Il adorait le grec, il met plein ses poches. Là. Alors de temps en temps... Une fois, j'étais troué, ça tombait. Bon. De temps en temps, il rouvrait son livre, un livre de grec qu'il était en train de lire. Il retrouvait une phrase où il dénichait une phrase, une période, enfin un ensemble de mots, etc., qui lui paraissait particulièrement heureux. Il le notait sur un petit bout de papier, et puis il essayait de s'en imprégner en se disant comment est-ce que je vais arriver à traduire ce que Démosthène ou ce que Homère a dit de cette manière-là, comment est-ce que je vais arriver à le faire passer chez les Français de mon temps, chez mes contemporains. Voilà. Donc une immense culture, mais une parole qui est amplifiée aussi par les conditions de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il n'y a plus de grands orateurs, c'est qu'il y a beaucoup d'images. Hein? C'est vrai que l'image a d'une certaine manière tué la parole. Hein? Or à l'époque, on parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les hommes politiques, les gens qui étaient des militants, enfin hommes politiques, c'était très bien. Quel que soit ce qu'ils pensaient en politique, c'était relativement bien vu d'être un homme politique à l'époque. Bon, ils n'arrêtaient pas, ils avaient des lieux d'expression qui étaient extrêmement nombreux. D'abord, il y avait les banquets. Alors ça, le banquet républicain, grand truc. Hein. Alors ça durait très longtemps, on y parlait au début, à la fin, au milieu. On attendait que le citoyen Jaurès veuille bien porter un toast de toast, catos, santos, citos, bon, qu'il prenne la parole à différents moments du banquet. Voilà, mais il n'y avait pas que lui. Hein. Il y avait d'autres socialistes, des ouvriers, des syndicalistes, des écrivains aussi. Il était un grand admirateur de Rabelais, enfin bon, il appartenait à toutes sortes de sociétés. Bon. Il y avait les banquets républicains. Bon. Il y avait les meetings. Le meeting de l'époque, c'est quelque chose. Hein. Remarquez, ça n'a pas disparu, le meeting, ça existe toujours. Mais à l'époque, quand on faisait... Moi, par exemple, je passe mon temps à courir la province, en l'occurrence, pour le moment, plutôt autour de la Ligue des droits de l'homme. Et c'est vrai que ben, les amis m'organisent des réunions publiques. Mais enfin, vous savez, quand on est 400, on trouve que c'est beaucoup. Hein. Mais alors là-bas, un bon meeting de l'époque, un bon grand meeting socialiste, c'était quand même des milliers de personnes. Des milliers et des milliers de personnes. Bon. Et les meetings non socialistes aussi, d'ailleurs. Parce que l'extrême droite, notamment les antisémites, tenaient de très, très, très grands meetings. L'antisémitisme a été quand même bien porté, au moins pendant toute l'affaire Dreyfus. Bon. Donc, voilà les meetings. Et dans les meetings, il y a un rituel de meeting. Donc, ils se pliaient à tous ces rituels, comment on constitue le bureau, comment on monte à la tribune, comment on prend la parole, si le meeting est contradictoire, il faut se mettre d'accord pour ne pas s'insulter. On a conservé les discours, par exemple, dans lesquels Jaurès s'oppose à un autre grand socialiste de son temps qui s'appelle Jules Guesde. Alors il y a des discours, un discours très célèbre qui s'appelle « Les deux méthodes », dans lesquels les deux grands dirigeants socialistes, en 1902, à Lille, dans l'hippodrome de Lille, une très grande salle de Lille, opposent leur manière de concevoir l'affaire Dreyfus. Bon, c'était en effet fort différent. Bon, c'est des grands meetings. Et les salles de meetings, il y en a partout dans la région. À Paris, il y avait, je sais pas, une soixantaine de grandes salles de meetings, plus des petites salles, des salles moyennes, sont disparues en général. C'est devenu des théâtres ou des cinémas, ou bien ça a disparu complètement, ou bien c'est devenu des lieux de sport. Des lieux de sport aussi. Bon. Et puis, finalement, il y a le Parlement. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Jaurès est un immense parlementaire et que de son temps, la parole parlementaire, c'était la grande parole. C'était, les grands discours étaient imprimés et diffusés massivement. On les envoyait, quand un discours avait obtenu l'éloge de la chambre, enfin, même si le contenu du discours n'était pas approuvé par tous, mais quand on considérait que c'était un très grand, un très beau discours, on demandait, il sera imprimé, on va l'envoyer. Bon. Mais on venait de partout à la Chambre des députés pour suivre les grands discours. Et par exemple, il y a autour de Jaurès, à la Chambre de cette époque-là, des orateurs extraordinaires. D'abord, Clémenceau est un très très grand orateur. Je pense qu'il ne ressemble pas du tout à celle de Jaurès. Très grand orateur. Il y a un catholique d'extrême droite, mais qui a accepté la République parce que le pape Léon XIII leur avait dit qu'il fallait accepter, qui s'appelle Albert Demain, puis un très 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 grand orateur, très différent de Jaurès, un orateur comme ça un peu, il était cavalier dans l'armée, alors une parole comme ça un peu militaire, mais très belle, très forte. Il y a un Barrès, il y a quelqu'un d'écrivain comme Barrès, qui appartient pas du tout au même groupement politique, au même milieu politique que Jaurès et les autres. Voilà. Mais le Parlement, c'est un lieu où on parle, c'est aussi un lieu où on travaille énormément. C'est un lieu où on prépare ses interventions, où on apprend à interpeller le gouvernement, où on apprend à poser des bonnes questions et pas des questions sottes. On apprend, ce qui suppose qu'on les a préparées, les questions. Hein. Sans ça, c'est pas la peine d'essayer. Mais bon, et sans ça, je vais moquer de vous. C'est désagréable. Bon. Où on apprend à se faire insulter, parce que toute la fin de la vie de Jaurès, de 1906 en tout cas, oui, et surtout 1907, jusqu'à sa mort, il n'arrête pas d'être insulté au Parlement, à cause de la manière dont il combat les conquêtes coloniales, notamment la conquête du Maroc, à cause de la manière dont il appelle à ne pas céder aux paniques bellicistes, la manière dont il dénonce les coupables, les responsables des menaces de guerre, les grands capitalistes, mais aussi les officiers, notamment les officiers coloniaux, qui veulent à tout prix acquérir un petit bout du Maroc, et que ce ne soit pas les Allemands qui l'acquièrent, d'ailleurs, même chose du côté allemand. Vous voyez, bon. Il est insulté sans arrêt. Et l'assassinat de Jaurès n'est que la conclusion de cette des haines qui se sont accumulées contre lui pendant ces années-là. Bon. Et alors, cette parole de Jaurès, quand elle se libère, quand elle arrive à s'exprimer dans un meeting ou dans une au Parlement, elle est elle-même un acte. Et on pourrait prendre comme exemple d'un moment où la parole de Jaurès a véritablement été un acte, et un acte pas seulement pour le monde ouvrier ou pour le monde socialiste, mais très au-delà du monde ouvrier et du monde socialiste, l'affaire Dreyfus, si vous voulez. Hein, l'affaire Dreyfus, puisque dans cette affaire très, très compliquée, mais très simple en réalité, et qui avait été rendue compliquée par des fripons au Parlement et au gouvernement. Commencer au gouvernement, le ministre de la guerre, le nommé Mercier, et un certain nombre d'officiers d'état-major, dans cette affaire où un capitaine a été condamné de façon scandaleuse, dans un procès qui n'était pas conforme à la loi, bon. Donc c'était, d'une certaine manière, c'était tout simple, puisqu'on avait acquis la certitude qu'il avait été condamné de façon non conforme à la loi, ben de refaire le procès. Mais non, l'armée française s'oppose absolument, de manière absolue, à ce que le procès soit refait, en disant, mais si on remet en cause le jugement que le Conseil de guerre de Paris a rendu contre Dreyfus, c'est le prestige de l'armée qui va s'effondrer. Et le concept de raison d'État, qui est bien plus ancien, qui ne date pas de la fin du XIXe siècle, il est utilisé à ce moment-là, par ceux qui disent, tous ces intellectuels qui commencent à s'exprimer par les pétitions, etc., et qui disent, mais d'abord l'armée, c'est pas l'État. Et invoquer la raison d'État en disant que si par hasard on refait un procès qui a été fait dans des conditions injustes, tout le monde est d'accord, la loi n'a pas été respectée. Dire que pour autant la République française va s'effondrer, c'est de la folie. Eh bien non. Jaurès entre assez tard dans l'affaire, en février 1898, pendant le procès qui était tenté à Zola pour avoir écrit un texte très célèbre qui s'appelle « J'accuse », où il accusait le pouvoir français, le gouvernement français, et d'avoir commis toutes sortes de crimes dans l'affaire. Bon, et à partir du moment où Jaurès est absolument convaincu que ce qui se passe ne concerne pas seulement un officier, qui est certainement quelqu'un qui souhaitait qu'il soit libéré, mais que ça concerne la conception même qu'il a de la République et de la société. Il entreprend de convaincre les militants ouvriers, qui n'en étaient nullement convaincus, hein, et qui considéraient qu'eux, ils souffraient tous les jours, il valait mieux qu'ils s'occupent de diminuer la journée de travail, la durée de la journée de travail, d'avoir de meilleurs salaires et d'obtenir des garanties un peu moins déshonorantes contre les accidents du travail, eh bien, il entreprend de leur démontrer que ce Dreyfus, qui était un officier, les officiers, à l'époque, les ouvriers, ils n'aimaient pas ça, hein, parce que les officiers, c'était eux qui faisaient tirer dans les grèves. C'est pas la police qui gérait les grèves, hein, c'est l'armée. Donc, bon, un officier très riche, c'est vrai que la famille Dreyfus est très riche, bon, en plus un officier juif. Alors, de l'antisémitisme, ça circulait un peu partout dans les milieux populaires. Hein. Oh là, les juifs, c'est les riches, bon. Qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter ces histoires? Et Jaurès leur dit des choses d'une simplicité, comment dirais-je, biblique, si j'osais employer un adjectif comme ça. Il leur dit, mais c'est pas ça. Ce Dreyfus, dès lors qu'il a été condamné à tort, qu'il est innocent, en plus on avait démontré qu'il était innocent, et Jaurès a écrit un livre qui s'appelle L'Épreuve, pour démontrer que Dreyfus, il est innocent, qu'il était condamné injustement et qu'il est innocent. Il n'est plus rien. Il se meurt là-bas, dans son île du diable, où il est, effectivement, Dreyfus a failli mourir, comme tous les condamnés qui passaient de longues années à l'île du diable. On en mourait très bien. Il n'est plus ni capitaine, ni d'une famille riche, ni juif. Il n'est plus rien de tout ça. Il est exactement comme vous. Il est nu comme un ouvrier qui n'a rien, hein, qui n'a que, ses, que sa souffrance. Et ses forces pour survivre, et dans tous les cas l'ouvrier, pour travailler jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. Et alors, il leur brosse ainsi un tel portrait des conséquences de l'injustice. Quel que soit l'individu qui est atteint par l'injustice, qu'il soit riche ou pas, qu'il soit officier ou pas, qu'il sorte de l'état-major de l'école polytechnique et qu'il soit destiné à devenir dirigeant de l'état-major, qu'il se prépare à vous conduire à la guerre ou pas. Pour le moment, il n'est rien de tout ça, Dreyfus. Il n'est qu'un innocent, injustement condamné, comme vous tous. Et Jaurès a ce mot tout à fait magnifique, il dit que pour les ouvriers, le monde, l'affaire Dreyfus est une affaire Dreyfus permanente. C'est-à-dire que tous les ouvriers vivent en permanence les souffrances du capitaine Dreyfus. Et il parvient à en convaincre, je ne dis pas tous, mais un très grand nombre d'entre eux. Et ça, c'est parce que ce que je voulais vous dire en évoquant cette chose, on pourrait en évoquer bien d'autres, hein, c'est que il est capable, par la magie de la parole, de transformer des hommes, de transformer des êtres humains. Pas seulement de leur apprendre à se coaliser, à s'organiser pour leurs intérêts, à ne pas se battre entre eux, un syndicat contre un autre, un courant socialiste contre un autre courant socialiste, ou n'importe quoi, ou les syndicalistes contre les socialistes. Non, mais à transformer des hommes dans ce qui leur semblait au début le plus simple. Qu'est-ce que nous, on a de commun avec ce riche fils d'industriel, en plus officier, qui nous fera tirer dessus demain si on lui rend la possibilité de le faire. J'en étais absolument convaincu. C'est l'idée que l'armée était... Il faut défendre la nation. Mais l'idée que l'armée, que le corps des officiers, c'est pas les ennemis, c'est pas les amis des ouvriers, et il est convaincu du contraire. Et c'est quelque chose, ça. Et ça, c'est en cela que ce qu'on peut appeler la parole chez Jaurès, c'est aussi un acte. Alors je pourrais prendre 10 autres ou 50 autres exemples, mais je choisis finalement de prendre celui-là. Voilà. Le fond du problème, c'est qu'aux yeux de Jaurès, le prolétariat, et au-delà du prolétariat, le salariat, si vous voulez vous interroger là-dessus, on en parlera tout à l'heure, est à ses yeux l'agent principal de transformation d'un monde abominable, d'un monde que le système capitaliste rend abominable, et qu'il faut parvenir à un jour à restituer à ce monde, enfin à faire en sorte que ce monde retrouve l'unité de l'être dont il est parti, et dont il est aujourd'hui la forme atroce. Et pour que le prolétariat, pour que le salariat puisse y parvenir, il ne faut pas qu'il soit seul, évidemment. Hein. Il faut que les ouvriers, ça, bon, s'associent à d'autres, tout en gardant leur propre pensée d'humanité et d'indépendance, d'autonomie du prolétariat et d'émancipation du prolétariat. Et pas seulement en France. Parce que s'il n'en est ainsi qu'en France, nous serons toujours battus. Et puis d'ailleurs, les hommes et les ouvriers sont hommes et ouvriers en dehors de la France. Alors c'est l'idée de l'internationalisme qui est l'idée dominante de la pensée de Jaurès. Parce que si on arrive, dit-il, à réaliser l'international des socialistes, l'international des socialistes, l'international des prolétaires, l'international qui arrivera peut-être à faire face aux menaces que le système capitaliste fait peser sur le monde, alors ce jour-là, nous n'aurons pas perdu notre temps. Et ben voilà, il est mort avant que l'internationalisme socialiste ait été capable d'empêcher la guerre. Et ben voilà. Mais c'est vrai que sa mémoire reste parmi nous comme celle d'un personnage d'exception, mais en même temps d'un personnage d'exception qui est très proche de tout ce qui se dit, se pense et se fait dans son temps. Non. Plutôt un peu mieux. Voilà. Bon, merci. Allez, hop. C'est bien long tout ça, j'ai parlé pas si mal. C'est trop long.
Alors, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, demander un éclaircissement ?
Quels sont les hommes politiques que l'on peut considérer comme ses continuateurs?
Oh, il n'y en a pas. Non, ça, il n'y en a pas, franchement. Non, il y a de grands socialistes, il y a de grands communistes, parce que socialisme et communisme, ce sont les deux frères ennemis depuis 1920, mais il n'y en a, aucun d'entre eux ne peut se mettre à la taille de Jaurès. Dans le petit livre là, que j'évoquais tout à l'heure, il y a... j'ai publié une caricature qui est marrante, qui représente... mais je l'ai commenté d'une façon très sympathique pour le président Mitterrand, mais enfin, qui représente Mitterrand et Jaurès. Et c'est Mitterrand qui est tout petit, puis Jaurès qui est tout grand. Alors que du point de vue de la taille, Mitterrand n'était pas très grand, mais il était quand même plus grand que Jaurès, lequel était vraiment... lequel était vraiment très grand. Non, non, il n'y a pas de continuateur. Non, non, non. Mais bon, parce que d'une certaine manière, chaque homme est irréductible dans sa grandeur et dans ses faiblesses aussi. Mais aussi parce que réellement, je crois que le mouvement ouvrier, le mouvement. De même qu'il n'y a pas de successeur à Marx pour le moment. Ça se saurait s'il y en avait. On n'a pas trouvé ça encore. Donc on n'est pas. Non. Y a des, ce sont des, ces gens-là n'ont pas de successeur. Lénine est un immense homme politique, mais dont l'application et dont la manière de concevoir la politique et les luttes est à certains égards, même si les objectifs sont les mêmes, est à certains égards aux antipodes de celle de Jaurès, qui donc en aucun cas ne peut prétendre à être considéré comme, si vous voulez, comme son héritier. Il n'aimait pas d'ailleurs beaucoup Jaurès, Lénine. Alors que dans les premiers bolcheviques, il y a un des premiers bolcheviques qui dit que Jaurès est le plus grand homme qu'il n'ait jamais connu, qui s'appelle Trotsky. Et aux yeux de Trotsky, Jaurès était le grand entre tous les grands. Tout en même temps, il ne pensait pas comme Jaurès sur bien des points, évidemment, parce que la manière dont les bolcheviques percevaient les contradictions de la société, la lecture qu'ils faisaient de Marx, elle n'est pas du tout celle de Jaurès. Enfin, pas du tout, était sur certains points celle de Jaurès, mais sur d'autres points, pas la même. Mais il était saisi par la grandeur de l'homme. L'espèce de force qui va, qu'il y avait chez Jaurès. Côté hugolien aussi chez Jaurès. Hein. Je suis une force qui va. C'est... Ah oui,
j'ai une question à vous poser. J'ai étudié un peu la question Jaurès avec Harvey Goldberg aux États-Unis,
oui,
qui a écrit le livre sur Jaurès.
Oui, c'est un grand ami à moi, Goldberg.
Oui, ça, c'est très content. Alors, la question que je voudrais vous poser maintenant, avec le rapport du passé, avec le présent, c'est que si, c'est très hypothétique, et ce n'est pas une question, oui, très intellectuelle à poser, si Jaurès vivait à l'heure actuelle, maintenant, avec le contexte autrement, du fait qu'il n'y a, il n'y a plus de l'Union soviétique et tout ça, le nouvel ordre mondial et etc. Devant la question d'Europe, par exemple, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez serait la situation de Jaurès? Il se trouverait plutôt à côté des socialistes ou communistes ou ailleurs?
Je ne sais pas.
Parce que c'est toujours, il y a les deux.
Non, c'est très difficile à dire, oui, parce que l'époque est tellement différente. Il me semble qu'il... Bon, en tout cas, par rapport à l'Europe et par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Commençons un peu par la mondialisation. Je pense que Jaurès était suffisamment socialiste et surtout suffisamment lecteur de Marx pour savoir que la mondialisation telle qu'on nous la présente, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, pas qu'on nous la présente, qu'elle fonctionne, c'est d'abord la mondialisation du capital. Hein. Donc, il conclurait, comme d'ailleurs l'ont écrit de son temps des marxistes autres que lui, par exemple Rosa Luxembourg, ou bien par exemple Hilferding en Allemagne, puisque vous me posez des questions un peu plus sophistiquées. Bon. Ah, pas en Allemagne, en Autriche. Donc Hilferding en Autriche, ou Rosa Luxembourg, qui est polonaise, et, mais en fait qui est de nationalité allemande, et qui écrit en Allemagne. Donc, il verrait dans la mondialisation actuelle du capital l'aboutissement du capitalisme. Il n'était pas encore mondial au début du XXe siècle. Hein. Donc, Hilferding et Rosa ont écrit là-dessus, en montrant que la tendance du capital, d'ailleurs, c'était déjà dans Marx, mais il le montre en l'analysant d'une façon beaucoup plus subtile, parce que 30 ans après la mort de Marx, les choses ont beaucoup bougé, que le capital tend à se mondialiser. Hein. Et donc, il reconnaîtrait, je crois, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, le pouvoir nouveau du capital. Hein. Le capital mondial. Mondial, pas seulement parce qu'il y a des capitalistes dans tous les pays, mais parce que l'ensemble des continents du monde est rentré dans ce qu'on appelle le marché capitaliste, c'est-à-dire que les marchandises, la production circulent partout. Par exemple, frappant l'Asie, les fameux quatre dragons du sud-est asiatique, où avec un contrôle de l'État qui reste de type communiste, les transformations de la Chine aujourd'hui, hein, transformation, l'entrée de la Chine dans le monde de la production industrielle, de la production marchande, même si en Chine, l'État, selon une procédure qui n'est pas soviétique, mais enfin, on pourrait quand même comparer un peu à celle de l'URSS, continue à contrôler le capital. Faire en sorte que le capital ne soit pas livré à la toute-puissance de détenteurs privés. Du moins, pas l'essentiel du capital. Pas pour l'essentiel. Bon. Donc, je pense qu'il dirait ça. Et par conséquent, je pense qu'il éviterait de s'extasier devant la mondialisation. Oui, ben vous avez maintenant beaucoup de gens qui s'extasient. Dans Le Monde de ce soir, il y a un grand article d'Israelevich là, qui explique ça. En extase devant la mondialisation. Bon. Et pourtant, je pense qu'il dirait, enfin je pense, parce que ça me paraît relever de l'évidence à partir des analyses qu'il fournit et que fournissent ceux avec qui il est en relation étroite, dans l'international à l'époque. Hein. Je pense qu'il dirait que la réponse à la mondialisation du capital, elle est dans la mondialisation du prolétariat. Hein, et donc dans le caractère mondial des luttes. Bon. Alors c'est vrai qu'il y a encore un continent, l'Afrique, qui pour une grande part reste à l'écart du marché mondial. Je dirais, bon, dans la mondialisation, la réponse au capitalisme mondial, c'est le salariat mondial, si vous voulez. Bon, on ne dirait plus le prolétariat aujourd'hui, on dirait le salariat. Bon, le salariat mondial. Avec les droits qu'il a conquis et qu'il doit conquérir. Et effectivement, on voit ça. La grande grève qui a eu lieu il y a quelques mois en Corée du Sud était de ce point de vue tout à fait extraordinaire, puisque ces Coréens qu'on disait soumis, prêts à n'importe quoi, pour peu qu'on leur qu'ils aient du boulot, et bon, se sont mis en grève et très longuement au motif que l'État avait autorisé les grands propriétaires des usines à faire perdre aux travailleurs le caractère stable de leur travail, hein, à les licencier, voilà, ce qui auparavant était interdit par les réglementations coréennes, qui de ce côté-là relèvent de cultures asiatiques très différentes de chez nous, parce que chez nous le capitalisme a toujours licencié, comme il voulait, enfin pas comme il voulait, comme il aurait voulu, il veut pas toujours, des moments où il peut, des moments où il peut pas, bon, en ce moment il peut. Bon, alors donc je crois que j'aurais été tout à fait sensible à ça. Alors quand on dit mondialisation du salariat, ça veut dire quoi? Je crois que, et là je pense que la pensée de Jaurès est une pensée très, très différente de ce qu'on appelle mondialisation, même en disant mondialisation du salariat. C'est une pensée internationaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des nations. Jaurès est quelqu'un qui pense que les sociétés sont structurées en régions, en petites régions, bon, en nations, en possibilité pour les nations de soit de se faire la guerre, c'est une des conséquences du capitalisme, soit de s'entendre entre elles, c'est à ça que doivent tendre les travailleurs, les salariés, le mouvement socialiste. Bon. Bien. Mais tout cela circule entre les nations. Et Jaurès fait partie des hommes qui n'ont jamais imaginé que les nations puissent disparaître. En tout cas, les nations telles qu'ils les connaissaient en Europe. Nation française. Remarquez. Bon, on dira, c'est peut-être parce qu'il ne voit pas assez loin, parce que de son temps, en effet, les nations étaient très fortes. Peut-être qu'aujourd'hui, il dirait, les nations peuvent disparaître. Ça me paraît alors extrêmement éloigné de sa façon de raisonner. C'est pour ça que le mot qui lui convient, ce n'est pas même mondialisation du prolétariat, ou du capital, ou du salariat. C'est internationalisation. Internationalisation. Alors, dans ces procédures, cette construction de l'international, bon, qui disent international, il y en a plusieurs, elles sont bagarrées entre elles. Enfin, bon, bref, tout ça, c'est le témoignage de la puissance du capital. Par exemple, les internationales socialistes et communistes, ou trotskistes, enfin, deuxième, troisième, quatrième, etc., se bagarraient entre elles, si Jaurès avait été là, il aurait dit, c'est la marque de la toute-puissance du capital, c'est que le capitalisme est toujours le maître, puisque vous n'êtes pas capable de vous entendre, alors que vos intérêts sont, même s'ils sont très divers, sont fondamentalement les mêmes. Bon. Mais cette internationalisation du socialisme, elle suppose donc qu'il y ait, bon, on passe à une étape supérieure, mais on ne perd pas l'étape inférieure. Alors ça, c'est une pensée qui ne vient pas de Marx du tout, qui vient de Hegel, un autre philosophe allemand que Jaurès avait beaucoup lu, qui est entre Kant et Marx, si vous voulez, comme ça, dans la chronologie, première moitié du 19e siècle. La pensée de Hegel, c'est en effet... il faut dépasser en permanence ce que l'esprit a. Bon, Hegel a une façon de concevoir le pouvoir de l'esprit sur le monde qui est très différente de celle de Marx et de celle de Jaurès. Ben, il faut dépasser constamment ce que l'esprit a déjà conçu, mais en le dépassant, il faut conserver l'étape antérieure. Par exemple, il ne faut pas détruire la petite patrie, par exemple l'Occitanie, si vous voulez, hein, les terres du sud-ouest, comme ça. Il ne faut pas les détruire parce que vous êtes français. Au contraire, ça doit circuler de l'un à l'autre. C'est le sens profond de cet effort qu'il faisait quand il écrivait toutes ses critiques littéraires, pour faire connaître les Parisiens aux gens du sud-ouest, gens du sud-ouest aux Parisiens. Bon. Donc, il faut toujours conserver ce qu'on dépasse. Et de même, dans l'international, qu'il avait contribué à créer, il n'est pas tout à fait des tout premiers fondateurs, mais enfin, à partir de 93, il est très assidu dans tous les congrès de l'international, il joue un très grand rôle. Dans l'international, il dit... il faut conserver les nations. C'est inter-nation. Bon. Et l'objectif de l'international, c'est un jour de couvrir le monde entier. C'est ce que dit le champ de l'international. L'international sera le genre humain. C'est ça que ça veut dire, ça. Le genre humain, c'est-à-dire l'humanité, c'est-à-dire l'être. Quand on aura reconstitué l'être, ça sera l'unité de l'humanité. Donc, de ce point de vue-là, il trouvait cette chanson très belle. Et elle représente très bien, je crois, ce qu'il pensait. Alors, dans l'intervalle, les problèmes de l'Europe. Alors Jaurès était tout à fait sensible au fait qu'il y a des sociétés particulières en Europe, hein, et que ces sociétés particulières, par exemple, pas seulement la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, bon, la Russie, bien, et que ces sociétés particulières, qui sont constituées en état-nation ou pas encore en état-nation, qu'ils seront un jour, enfin bon, je pense qu'elles le seront un jour, que ces sociétés ont des traits communs. Et c'est une des raisons pour lesquelles il trouve particulièrement inadmissible qu'elles se fassent la guerre. Mais en même temps, il sait que si elles se font la guerre, enfin il pense que si elles se font la guerre, c'est à cause du système capitaliste, ce que je vous disais tout à l'heure. Bon. Donc il est partisan de créer des liens entre les États européens, les plus civilisés, comme on dit, de telle manière qu'ils soient capables de, ce qu'on appellerait aujourd'hui les droits d'ingérence, si vous voulez, hein, d'intervenir dans d'autres États européens où il se passe des choses tout à fait épouvantables, de manière à faire progresser la civilisation, à les faire entrer dans la civilisation. Et alors on voit ça très très bien à propos, par exemple, à propos des Arméniens. Les massacres d'Arménie ont commencé à la fin du 19e siècle, les massacres d'Arméniens par les Turcs, mais ce n'étaient pas les Turcs qui tuaient, c'était les Kurdes qui tuaient. Donc, et Jaurès est intervenu très tôt dans ce qu'on appelle les massacres d'Arménie, qui reprennent à plusieurs reprises, qui déboucheront sur un massacre beaucoup plus grave en 1915, pendant la Première Guerre mondiale. Bon. Donc il a été très attentif à ça. Et il dit, mais c'est pas possible, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, trois pays qui ont de grands intérêts en Turquie, surtout l'Angleterre et l'Allemagne d'ailleurs, mais la France aussi, elle avait surtout des intérêts anciens. Et puis un prestige qui était dû à sa présence très ancienne depuis François Ier, enfin bon, dans l'Empire turc. Donc ça faisait un pays quand même. Ça faisait 4 siècles, c'était un bout de chemin. Donc ils disent, ces trois nations qui ont des intérêts en Turquie, qui ont donc des raisons, qui peuvent donner des conseils, qui peuvent intervenir, qui peuvent conseiller aux Turcs de ne pas faire de folie, peuvent leur dire, arrêtez les comportements que vous laissez faire et que peut-être vous encouragez par rapport aux Arméniens. Oui, faites ça. Bon. Et à travers cet objectif de civilisation, il introduit l'idée qu'il peut y avoir une Europe dont les nations les moins barbares pourraient peut-être aider les plus, celles qui sont encore plus barbares, à l'être un petit peu moins. Alors évidemment, vous avez la grande coupure dans tout ça, c'est la guerre de 14. Parce que, qu'est-ce qu'a montré la Première Guerre mondiale? C'est que l'Angleterre, l'Allemagne et la France étaient tout aussi barbares que la Turquie quand elle massacrait les Arméniens. Donc c'est ça le problème. C'est là que l'immense espérance, ou si vous voulez, ce qu'il y a d'optimisme fondamental dans la pensée de Jaurès est atteint. C'est atteint par la Première Guerre mondiale, parce que c'est quand même l'épisode le plus infâme de l'histoire de l'humanité, quand même, la Première Guerre mondiale. Vraiment, franchement, ces gens n'avaient aucune raison de se casser la gueule. Non, c'est vraiment le pur produit du... de toutes sortes de choses, et du capitalisme, et des états-nations, et des haines entre les états-nations. Bon, mais enfin, aurait dit Jaurès d'abord du capitalisme, d'abord du système capitaliste. Mais je crois qu'il n'aurait pas imaginé que les choses pourraient aller jusqu'où elles sont allées.